Les maudits sont sans importance. Sans importance. Sont sans importance. Les mots sont sans importance.
Bonjour, la diseuse de mots. Aujourd'hui, je vous lis un deuxième extrait du roman de Colette, Naissance du jour. La musique choisie pour illustrer cette lecture est de Vivaldi. Le vent grandit, puisque la porte qui ouvre sur la vigne, l'enclos ceint de briques ajourées, se débat faiblement sur ses gonds. Il va balayer, rapide, un quart de l'horizon et s'agripper sur le bord verdâtre d'une pureté hivernale. Alors, le golfe creux ronflera tout entier comme un coquillage. Adieu, ma nuit à la belle étoile sur le matelas de raffia. Si je m'étais obstinée à dormir dehors, la puissante bouche qui souffle le froid, le sec, qui éteint toute odeur et anesthésie la terre, l'ennemi du travail, de la volupté et du sommeil, m'eût arraché draps et couvertures qu'il s'est façonné en longs rouleaux. L'étrange tourmenteur, occupé de l'homme, comme peut l'être un fauve. Les nerveux en savent plus que moi sur lui. Ma cuisinière provinciale, attaquée près du puits, pose ses seaux, se tient la tête et crie « Il me tue !» Les nuits de Mistral, elle gémit sous lui dans sa cabane de la vigne, et peut-être qu'elle le voit. Retirée dans ma chambre, j'attends avec une impatience modérée la retraite du visiteur pour qui ni lui n'est clos et qui déjà pousse sous ma porte un singulier hommage de pétales flétris, de graines vannées finement, de sable, de papillons molestés. Va, va, j'ai découragé d'autres symboles, et je n'ai plus 40 ans pour détourner le front devant une rose qui se fane. C'en serait donc fini de cette vie de militante? 3 moments sont bons pour y songer. La sieste, une petite heure d'après le dîner, quand le craquement du journal arrivé de Paris emplit étrangement la pièce, et puis l'insomnie irrégulière, du milieu de la nuit avant l'aube. Oui, il est bientôt 3 heures. Mais où chercher, même pendant ce milieu instable de la nuit qui si vite penche vers le jour, la poche énorme d'amertume que me promettaient mes chagrins et mes bonheurs passés, ma littérature et celle des autres? Humble à l'habitude devant ce que j'ignore, j'ai peur de me tromper quand il me semble qu'entre l'homme et moi, une longue récréation commence. Homme, mon ami, viens respirer ensemble. J'ai toujours aimé ta compagnie. Tu me regardes à présent d'un œil si doux. Tu regardes émerger d'un confus amas de défroques féminines, alourdi encore comme d'algues une naufragée. Si la tête est sauve, le reste se débat. Son salut n'est pas sûr. Tu regardes émerger ta sœur, ton compère, une femme qui échappe à l'âge d'être une femme. Elle a, à ton image, l'encolure assez épaisse, une force corporelle d'où la grâce à mesure se retire, et l'autorité qui te montre que tu ne peux plus la désespérer, sinon purement. Restons ensemble. Tu n'as plus de raison maintenant de me quitter pour toujours. Une des grandes banalités de l'existence, l'amour, se retire de la mienne. L'instinct maternel est une autre grande banalité. Sortis de là, nous nous apercevons que tout le reste est gai, varié, nombreux. Mais on ne sort pas de là, quand ni comme on veut. Quelle était judicieuse la remontrance d'un de mes maris. Mais tu ne peux donc pas écrire un livre qui ne soit d'amour, d'adultère, de collage, mais incestueux, de rupture? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans la vie? Si le temps ne lui pressait de courir, car il était beau et charmant, vers des rendez-vous amoureux, il m'aurait peut-être enseigné ce qui a licence de tenir dans un roman et hors du roman la place de l'amour. Il partait donc, et au loin du même papier bleuâtre qui sur la table obscure guide en ce moment ma main comme un phosphore, je consignais, incorrigible, quelques chapitres dédiés à l'amour, au regret de l'amour, un chapitre tout aveuglé d'amour. Je m'y nommais René Néré, ou bien, prémonitoire, j'agençais une Léa. Voilà que légalement, littérairement et familièrement, je n'ai plus qu'un nom qui est le mien. Ne fallait-il pour en arriver, pour en revenir là, que 30 ans de ma vie? Je finirai par croire que ce n'était pas payé trop cher. Voyez-vous que le hasard ait fait de moi une de ces femmes cantonnées dans un homme unique, au point qu'elles emportent jusque sous terre, stérile ou non, une ingénuité confite de vieille fille? D'imaginer un pareil sort, mon double charnu tanné de soleil et d'eau, que je vois dans le miroir penché, en tremblerait, s'il pouvait trembler encore d'un péril rétrospectif. Contre le fin grillage abaissé devant la porte-fenêtre, un sphinx des lauriers roses donne de la tête, rebondit et rebondit, et le grillage tendu sonne comme une peau de tambour. Il fait frais. La généreuse rosée ruisselle. Le mistral a différé son offensive. Les étoiles palpitent largement, dilatées par l'humidité saline. La plus belle nuit, encore une fois, précède le plus beau jour, et je me réjouis hors du sommeil. Oh, que demain me voit aussi douce! De bonne foi, je ne prétends plus à rien, sinon à ce qui est inaccessible. Quelqu'un m'a-t-il tuée pour que je sois si douce? Non point. Il y a bien longtemps que je n'ai connu le front contre le front, le sein sur le sein et mêlé les jambes, de vrais méchants. L'authentique méchant, le vrai, le pur, l'artiste, il est rare qu'on le rencontre, même une fois dans sa vie. Le méchant ordinaire est métissé de braves hommes. La 3e heure du matin, il est vrai, incline vers l'indulgence ce qui la goûte au champ et ne donne rendez-vous sous la fenêtre bleuissante qu'à eux-mêmes. Le vide cristallin du ciel, le sommeil déjà conscient des bêtes, la frigide contraction qui recloie les calices, autant d'anecdotes contre la passion et l'iniquité. Mais je n'ai même pas besoin d'indulgence pour déclarer que personne ne m'a tué dans mon passé. Souffrir, oui, souffrir, j'ai su souffrir, mais est-ce très grave souffrir? Je viens à en douter. Souffrir, c'est peut-être un enfantillage, une manière d'occupation sans dignité. J'entends souffrir quand on est femme par un homme, quand on est homme par une femme. C'est extrêmement pénible. Je conviens que c'est difficilement supportable, mais j'ai bien peur que ce genre de douleur-là ne mérite aucune considération. Ce n'est pas plus vénérable que la vieillesse et la maladie pour lesquelles j'acquiers une grande répulsion. Toutes deux voudront bientôt me serrer de près. Davantage, je me bouche les narines. Les malades d'amour, les trahis, les jaloux, doivent sentir la même odeur. J'ai le souvenir très net d'avoir été moins chérie de mes bêtes quand je souffrais d'une trahison amoureuse. Elle flairait sur moi la grande déchéance, la douleur. J'ai vu à une belle chienne de qualité un regard inoubliable, généreux encore, mais mesuré, ennuyé avec cérémonie, parce qu'elle n'aimait plus autant la signification de tout mon être. Un regard d'homme, le regard d'un certain homme, la sympathie de l'animal pour l'homme malheureux. On n'arrivera donc jamais à faire justice de ce lieu commun, d'une bêtise purement humaine? L'animal aime presque autant que nous le bonheur. Une crise de larmes l'inquiète. Il imite parfois le sanglot. Il réfléchit passagèrement notre tristesse. Mais il fuit le malheur comme il fuit la fièvre, et je le crois capable à la longue de le bannir. Les deux matous qui se battent dehors, comme ils s'emploient bien la nuit de juillet. Ces chants aériens du chamal, ils ont accompagné tant d'heures nocturnes de mon existence qu'ils sont devenus symboles de vigilance, d'insomnie rituelle. Oui, je sais qu'il est 3 heures et que je vais me rendormir et que je regretterai à mon réveil d'avoir gaspillé l'instant où le lait bleu commence à sourdre de la mer, gagne le ciel, s'y répand et s'arrête à une incision rouge en bas de l'horizon. Une grande voix de fauve baryton, à long souffle, persiste à travers les sons acérés d'un chat ténor, habile au trémolo, aux chromatiques aiguës interrompues d'insinuations furieuses, plus nasales à mesure qu'elles se font plus outrageantes. Les deux matous ne se haïssent pas, mais les nuits claires conseillent la bataille et les dialogues déclamatoires. Pourquoi dormir ? Ils choisissent et, de l'été, ne prennent, nuit et jour, que le plus beau. Ils choisissent. Tous les animaux bien traités choisissent ce qu'il y a de mieux autour d'eux et en nous. Partant, j'ai connu puis franchi l'époque où leur froideur relative m'instruisit de ma propre indignité. Je dis bien indignité. N'aurais-je pas dû quitter ce bas royaume ? Et quel goût déplorable pour ces pleurs mal essuyés, ces regards éloquents, ces stations debout sous un rideau à demi levé, ce mélodrame. Et que voulez-vous que pensât d'une telle femme, une bête, une chienne par exemple, qui était elle-même toute feu cachée et secret, une chienne qui n'avait jamais gémi sous le fouet ni pleuré en public. Elle me méprisait, cela va sans dire, et mon mal, que je ne cachais pas aux yeux de mes pareils, j'en rougissais devant elle. Il est vrai que nous aimions, elle et moi, le même homme, mais c'est quand même dans ses yeux à elle que je lisais une pensée. Je la relis dans une des dernières lettres de ma mère. L'amour, ce n'est pas un sentiment honorable. Un de mes maris me conseillait. Tu devrais bien, vers 50 ans, écrire une sorte de manuel qui apprendrait aux femmes à vivre en paix avec l'homme qu'elles aiment, un code de la vie à deux. Je suis peut-être en train de l'écrire. Homme, mes anciennes amours, comme on gagne, comme on apprend à tes côtés. Il n'est si bonne compagnie qui ne se quitte. Mais je m'engage ici à prendre courtoisement mon congé. Non, tu ne m'as pas tué. Peut-être ne m'as-tu jamais voulu de mal. Adieu, cher homme, et bienvenue aussi à toi. Une lueur bleue s'avance sur mon lit de bien portante, plus commodément arrangé pour écrire qu'un lit de malade, jusqu'au papier bleu, jusqu'à la main, jusqu'au bras couleur de bronze. L'odeur de la mer m'avertit que nous touchons à l'heure où l'air est plus froid que l'eau. Me lèverai-je ? Dormir est doux. J'étais partie ce matin au bois pour toi, mon amour, pour toi. Cueillir les premières fraises des bois pour toi, mon amour, pour toi. Je t'avais laissé encore endormi au creux du petit jour. Je t'avais laissé encore endormi au lit de notre amour. Vous pouvez me retrouver tous les mardis à 9h45 sur Jet FM ou en podcast. À bientôt.